Pour Noël, on vous a préparé une émission de Noël, parce que c'était plutôt sympa d'avoir quelque chose qui parlait de cette thématique-là. Et puis, plutôt que de la faire avec les voix habituelles de Radio Nord Vaudois, eh bien, on a été contacté par quelqu'un qui s'appelle Eliane Dombre. Salut Eliane.
Bonjour, Yago, tu vas bien ?
Mais oui, je vais très bien, je te remercie. Tu m'as contacté il y a quelques temps pour me dire, écoute Yago, j'ai une histoire de Noël à raconter, est-ce que tu voudrais la raconter avec moi ? Et puis, ben, je me suis dit, mais ça pourrait être super. Alors, je te propose qu'on parte sur cette aventure donc qui retrace les origines de Noël, avec, pour commencer, une première chanson.
C'est la fête, c'est Noël, tout le monde est heureux, la vie est belle, les cadeaux sous le sapin, les espadrilles, les escarpins, la messe de minuit, les potins, la belle famille, les bambins, et j'ai trop mangé, j'ai plus faim, les belles dindes et le bon vin, oui c'est la fête, c'est Noël, tout le monde est heureux, la vie est belle, les enfants ont été sages, et si c'est pas le cas, pas grave, on les pourrit, on les gave, on oublie, on tourne la page, on réunit tout l'équipage, c'est un beau moment de partage, car c'est Noël.
C'est Noël,
la vie est belle,
la vie est belle,
car à Noël, plus rien n'est pareil,
plus rien n'est pareil,
oui
c'est Noël,
la vie est belle,
la vie est belle,
à Noël. C'est Noël, tout le monde est heureux, la vie est belle. Moi je crèche dans la rue, je crève deux fois pendant que vous partagez votre repas. J'ai même pas de quoi m'acheter un burger à deux balles, mais pour vous la vie est normale. C'est la fête, c'est Noël, tout le monde est heureux, la vie est belle. Moi je demande simplement un toit ou juste un aliment. De la belle dinde, je m'en fous. Moi mon vin c'est du parfum. S'il le faut, je me mets à genoux. Je veux juste pas mourir de faim. Oui, c'est Noël.
C'est Noël.
La vie est belle,
la vie est belle, car à Noël,
plus rien n'est pareil,
plus rien n'est pareil.
C'est Noël,
oui c'est Noël,
la vie est belle,
la vie est belle,
ouais, à Noël. C'est Noël, tout le monde est heureux, la vie est belle. Moi j'ai 70 ans passé, je regarde la messe à la télé. Un SMS de mon fils, une photo du sien déguisé. Ça me décroche un sourire, mais ce soir c'est tout ce que j'aurai. Oui, c'est la fête pour certains, moi je suis seul sur mon futon. J'entends les gens s'amuser, dès que j'entrouvre le balcon. Les souvenirs reviennent, j'ai envie de revivre ça. Voir mon petit fils grandir, j'en garde l'espoir. Car c'est Noël.
C'est Noël.
La vie est belle,
la vie est belle, car à Noël,
plus rien n'est pareil,
plus rien n'est pareil,
oui
c'est Noël,
la vie est belle,
la vie est belle,
à Noël,
oui à Noël,
plus rien n'est pareil,
plus rien n'est pareil.
Le solstice d'hiver, dès que l'homme a commencé à cultiver la terre, il suivit attentivement la trajectoire du soleil tout au long de l'année, car c'était de lui que dépendait la nourriture, la chaleur et le bien-être. Les historiens s'accordent à reconnaître que bien avant l'époque romaine, on fêtait en Europe la renaissance, tant attendue, de la nature et l'espérance de vie nouvelle. Le cours des saisons déterminait aussi le moment des fêtes. Depuis la nuit des temps, les rites de remerciement et de sacrifice étaient célébrés dès que le soleil atteignait les points significatifs de son orbite, c'est-à-dire au solstice d'été et d'hiver. Il est probable que le feu et la lumière, en tant que symbole, jouaient un rôle important. On nommait ces fêtes les Saturnales.
Eh bien oui, mon cher Yago, on les appelle les Saturnales. Et je vais t'expliquer pourquoi. Mm-hmm. Parce qu'elles donnaient lieu à des réjouissances du 17 décembre au 25 décembre. Tous les peuples célébraient leurs dieux. Toutes ces religions antérieures au christianisme donnaient l'occasion de fêter le solstice d'hiver avec pour but de redonner courage et espoir au peuple effrayé par les sols gelés, l'absence de vie et l'obscurité. Le poète gréco-romain Lucien, qui vécut au IIe siècle après Jésus-Christ, décrivit les Saturnales comme une occasion pour boire plus que d'ordinaire. Ça n'a pas beaucoup changé, hein.
C'est vrai.
Faire du vacarme, jouer et danser pour nommer des rois et donner des repas aux esclaves. Il régnait une immense gentillesse à l'égard de tous. Comme aujourd'hui, nos fêtes de Noël actuelles en offraient des cadeaux, du porte-bonheur, du miel, des gâteaux. L'or était un des cadeaux courants. On décorait les maisons avec du lierre, des branches de houx et du gui, et tout travail, à part celui de la cuisinière et du banquier, qui était interdit.
J'aime beaucoup le banquier.
C'est beaucoup plus tard, vers le 6e siècle, après Jésus-Christ, que le pape Grégoire tempêtait contre les fêtes exubérantes, les danses et les décorations des portes, qu'il se prononça en faveur d'une fête sublime et non laïque. En Europe du Nord et en Europe de l'Ouest, l'Église se montra longtemps très réticente à intégrer les traditions du solstice d'hiver dans les fêtes de Noël. Et c'est ainsi que les coutumes de Noël devinrent de plus en plus variées.
On part un peu en musique ?
Ah oui, ça je veux bien.
Allez.
There's something waiting for us all. Christmas time brings you candles. Christmas time, come celebrate me. Christmas time brings you scandals.
Alors bien sûr, Noël, c'est aussi une fête en famille. C'est vers 1600 que peu à peu les fêtes devinrent symboles. Les pièces de théâtre et les représentations scéniques étaient très appréciées en Europe. Elles étaient surtout répandues à l'époque dans les régions alpines. Les Santons de Provence sont directement issus de cette tradition et apparurent au XVIIIe siècle, favorisant en France tout d'abord la diffusion des crèches domestiques. Les personnages étaient alors façonnés avec de la mie de pain séchée, puis pain à l'huile et vernis.
Ah, tu te rends compte le travail qu'ils avaient, c'était magnifique ça.
Absolument.
Mais déjà, on avait pris l'habitude à cette époque de fêter Noël beaucoup plus discrètement et les coutumes devinrent semblables à celles que nous connaissons aujourd'hui.
Ok.
Même dans les pays catholiques comme l'Italie et la France, où les puritains n'avaient pas beaucoup d'influence, Noël était devenu une fête de recueillement en famille. Au XVIIIe et XIXe siècle, la tradition qui consiste à échanger des cadeaux de Noël ou des étrennes au jour de l'an commença à se répandre. Les cadeaux de Noël sont sans doute une représentation symbolique des présents que les rois mages apportèrent à Jésus. Déjà au temps du règne de César, les fonctionnaires se faisaient offrir des cadeaux par les populations au début de chaque année et même les esclaves recevaient des cadeaux de leur maître.
C'est fou ça.
Mais avant Jésus-Christ, Chaque foyer offrait des sacrifices aux dieux pour la fête du solstice d'hiver, afin que ceux-ci protègent la maison des mauvais esprits et qu'ils veillent sur leur fertilité des champs.
Parle-moi un peu de la veillée de Noël.
Ah, la veillée de Noël, tout le monde en rêve. Quelle douceur que cette veillée de Noël et quel charme elles ont laissé dans nos souvenirs d'enfance. Toute la famille se réunit à table pour le repas du réveillon. Dès 7 heures du soir, les rues de la ville ou du village sont désertes. Et par contre, toutes les maisons sont brillamment éclairées. On oublie pour un jour l'économie de lumière.
C'est sûr.
Les bougies que l'on place sur la table d'une façon symétrique, les belles chandelles cannelées ornées de festons. L'excitation des enfants, les bonnes odeurs de la cuisine, la cannelle, oh la cannelle j'adore, les mandarines dont on jetait les pelures dans la cheminée, et surtout les merveilleuses bûches, les chants de Noël, les poésies. Et si on écoutait une chanson de Noël ?
Absolument, j'allais te le proposer, on a beaucoup discuté, il est temps de faire un peu place à la musique.
D'amour à ceux qui s'aiment, un Noël douceur, un Noël rempli de joie et de bonheur. Un Noël d'amour à ceux qui ont froid, Noël, chaleur. Un Noël rempli d'amour et d'amitié. Pour les enfants du monde entier et pour les chagrins d'amour. Et pour tous les cœurs oubliés, une nuit d'espoir et d'amour. Un Noël d'amour à tout l'univers, un Noël de paix, un Noël rempli de rêves et de cadeaux. Et pour vous tous, un merveilleux Noël d'amour.
Avant de partir pour la messe de minuit, parce que à l'époque, tout le monde allait à la messe de minuit. Je ne sais pas si cette année on va toujours, mais je crois que...
Ça dépend, mais il y a moins de monde dans les églises, c'est sûr.
Ah, ça c'est dommage. Alors on préparait la bûche de Noël, afin qu'au retour, après avoir marché dans le froid, on retrouvait autour de la table avec des boissons chaudes, la bûche et des biscuits de Noël.
Est-ce que tu sais d'où vient cette tradition ?
Cette bûche, elle doit durer jusqu'au 1er janvier. Donc, ça vient certainement du feu de cheminée, les bûches que l'on mettait dans les cheminées. Et même pour s'assurer une heureuse et prospère année, il fallait qu'elle brûle sans s'éteindre jusqu'à l'épiphanie, afin que si les rois mages viennent à passer par là, ils aient de quoi réchauffer leurs membres fatigués et glacés par l'âpre brise de nos montagnes.
Ah bah oui, forcément. Et puis dans les personnages évidemment iconiques de la période de Noël, on a Saint-Nicolas. Est-ce que tu nous dirais deux mots ?
À notre Saint-Nicolas, notre beau Saint-Nicolas de Fribourg. Hein ?
Par exemple ?
Par exemple, avec son perfectoire.
Eh oui.
Saint-Nicolas, saint patron et protecteur des petits-enfants et de la Lorraine, est fêté tous les 6 décembre. Surtout dans l'est de la France, dans le nord, ainsi que dans de nombreux pays d'Europe et surtout chez nous en Suisse.
C'est vrai.
La légende du Père Noël a été créée à partir du personnage de Saint-Nicolas, c'est en quelque sorte l'ancêtre du Père Noël. L'histoire dit que le personnage de Saint-Nicolas est inspiré de Nicolas de Myre, appelé également Nicolas de Bari. Il est né à Patara, en Asie mineure, entre 250 et 270 après Jésus-Christ, donc il y a longtemps.
Effectivement.
Il est mort le 6 décembre, en 345, dans la ville portuaire de Myre, en Asie mineure.
Potentiellement, il a vécu très vieux.
Oui. C'est l'un des saints les plus populaires en Grèce et dans l'Église latine. Il fut évêque de Myre au IVe siècle. Sa vie et ses actes sont entourés de légendes. Saint Nicolas, dans son costume d'évêque, fait équipe avec un personnage sinistre, le Père Fouettard. Celui-ci, tout vêtu de noir, n'a pas le beau rôle, puisqu'il est chargé de distribuer des coups de trique au garnement. Il ne faut plus faire aujourd'hui. Hein.
Oui, mais on est sage.
Oh, on va plus écouter un peu de musique.
Allez,
parce que c'est les fêtes, c'est Noël.
Exactement. Puis c'est bien de parler, mais si on veut garder une concentration, des fois, il faut faire des pauses. On a parlé de Saint-Nicolas, on a évoqué le fait que c'était l'ancêtre du Père Noël. On y vient à ce vieil homme en rouge. Parle-moi un peu du Père Noël.
On retrouve dans la représentation du Père Noël tout ce qui fait la symbolique du personnage de Saint-Nicolas.
Mm-hmm.
La longue barbe blanche, la mitre qui est devenue un bonnet de fourrure, le grand manteau rouge. Mais en 1821, un pasteur américain, Clément Clark More, écrivit un conte de Noël pour ses enfants dans lequel un personnage sympathique apparaît, le Père Noël, dans son traîneau tiré par Irène. Il le fit dodu, jovial et souriant. Il remplaça la mitre du Saint-Nicolas par un bonnet, sa crosse par un sucre d'orge et le débarrassa du Père Fouettard. Mais c'est à la presse américaine que revient le mérite d'avoir réuni en un seul et même être les diverses personnifications dispensatrices de cadeaux. Et en 1860, Thomas Nast, illustrateur et caricaturiste américain, revêt Santa Claus d'un costume rouge garni de fourrure blanche et d'un large ceinturon de cuir. En 1865, Nast établissait la résidence officielle du Père Noël au Pôle Nord au moyen d'un dessin illustrant deux enfants regardant sur une carte du monde le tracé de son parcours depuis le Pôle Nord jusqu'aux États-Unis et dans le monde.
Bien sûr.
L'année suivante, l'écrivain américain George Webster reprenait cette idée et précisait que sa manufacture de jouets et sa demeure pendant les longs mois d'été est cachée dans la glace et la neige du pôle Nord. Voilà la maison du Père Noël.
On ne le voit pas, bien sûr.
Mais attention, en 1931, le Père Noël prit finalement une toute nouvelle allure dans une image publicitaire diffusée par la compagnie Coca-Cola grâce au talent artistique de Adon Somblon. Le Père Noël avait désormais d'une stature humaine, le rendant ainsi plus convaincant et nettement plus accessible. Un ventre rebondissant, une figure sympathique, un air jovial. La longue robe rouge a été remplacée par un pantalon et une tunique. Ceci est plus marqué aux États-Unis car en France, et même en Suisse aussi, hein, le Père Noël a conservé une longue robe rouge. Coca-Cola souhaitait ainsi inciter les consommateurs à boire du Coca-Cola en plein hiver.
Quelle mariole !
Tu te rends compte ? Ainsi, pendant près de 35 ans, Coca-Cola diffusa ce portrait du Père Noël dans la presse écrite et ensuite à la télévision, sur ses bouteilles et partout dans le monde.
Tu noteras qu'un siècle plus tard, notre Père Noël, il est toujours là. C'est ce qui s'appelle un sacré coup de pub.
Eh oui.
Bon, on parle évidemment de Père Noël, on a parlé de musique jusqu'à maintenant. Je crois qu'il y a un morceau qui s'impose.
Ah oui, petit Papa Noël.
C'est parti.
Descendra du ciel avec
Ok, on a mis un petit peu le décor pour l'intérieur. Moi, je verrais bien un petit arbre de Noël.
L'arbre de Noël. Les Celtes y considéraient le 24 décembre comme le jour de la renaissance du soleil. Ils avaient coutume d'associer un arbre à chaque mois lunaire. Ils avaient dédié l'épicéa, qui était l'arbre de l'enfantement à ce jour-là. Donc, au XIe siècle, les fidèles avaient coutume de présenter des scènes appelées mystères, dont celle du paradis. L'arbre du paradis était souvent symbolisé par un sapin garni de pommes rouges. Et c'est en 1521 que le sapin ou arbre de Noël, ou encore arbre du Christ, a été mentionné pour la première fois en Alsace. Il existe également des documents attestant d'une fête le 24 décembre au XIIe siècle. La tradition du sapin apparaît en Europe et en Alsace. On parle alors de décorer les maisons avec des branches coupées 3 jours avant Noël.
À l'époque, l'Église considérait l'arbre de Noël comme une pratique païenne et même franc-maçonne.
Ah oui, alors ça c'est bien vrai. Et ce fut le cas jusqu'au milieu du XXe siècle. En fait, avant que la fête de Noël existe, il existait déjà un rite païen lors des fêtes du solstice d'hiver. On décorait un arbre, symbole de vie, avec des fruits, des fleurs, du blé. Et c'est au XIXe siècle que le sapin de Noël prend son essor. Cette coutume de l'arbre de Noël arriva en Grande-Bretagne dans les années 1840. La jeune reine Victoria et son époux, le roi Albert, le firent apprécier dans tout le pays. Les époux mirent l'arbre de Noël allemand avec ses lumières brillantes au centre de la fête familiale de Noël au château du Windsor.
C'était les premiers influenceurs.
Oui, voilà, les premiers influenceurs, la reine Victoria et son mari, absolument. Il fait ensuite son apparition aux États-Unis à la Maison Blanche. En France, l'arbre de Noël fut introduit à Versailles par Marie Leszczynska, la femme de Louis XV, oui, en 1738. Et la boule de Noël, qui décore les sapins, est née à Mezenthal, en Moselle.
Ok.
À l'époque, on y accrochait sur ces sapins des pommes, mais en 1858, l'hiver fut si rigoureux qu'il n'y eut plus de pommes. Alors, un artisan verrier eut l'idée de créer des boules représentant une pomme et d'autres fruits. Et la boule de Noël était née.
Et aujourd'hui, bien sûr, elle est toujours présente sur nos sapins.
Voilà.
Et par contre, ça fait longtemps que je n'ai plus vu de pommes sur un sapin.
Oui, moi j'ai mis des fleurs.
C'est joli aussi.
Cette année, j'ai mis que quelques boules et j'ai trouvé des jolies fleurs et j'ai planté des fleurs dans mon sapin et j'ai un arbre à fleurs pour Noël.
Écoute, et en plus, c'est bien la saison où c'est sympa d'avoir des fleurs quelque part.
Absolument.
Oui. Allez, parlons musique. Et bien sûr, on parlait d'un sapin. Là aussi, il y a quelque chose qui s'impose.
Eh oui, mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure.
Faites venir une chanteuse pour une chronique. Évidemment, vous aurez les chansons en bonus.
Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Quand par l'hiver, bois et guérets sont dépouillés de leurs attraits. Mon beau sapin, roi des forêts, tu gardes ta parure. Toi que Noël planta chez nous au saint anniversaire, jolis sapins comme ils sont doux, et tes bonbons et tes joujoux. Toi que Noël planta chez nous tout brillant de lumière. Mon beau sapin, tes vers sommets et leur fidèle ombrage de la foi qui ne ment jamais, de la constance et de la paix. Sapin, tes vers sommets m'offrent la douce image.
Bon, parle-moi un peu de l'origine du mot crèche.
Dans l'évangile de Luc, l'endroit où est déposé Jésus à sa naissance est désigné par le mot de mangeoire, qui se dit crypia en latin, d'où est ici le mot crèche. Par extension, la crèche s'apparente à l'étable tout entière. Il semble que la naissance de Jésus ait lieu dans une grotte aménagée en étable, comme il en existait beaucoup en Palestine à cette époque. Dès le 3e siècle, les chrétiens vénèrent une crèche dans une grotte de Bethléem, supposée être le véritable lieu témoin de la nativité. Et les premières crèches, ressemblant à celles que nous connaissons, font leur apparition dans les églises au 16e siècle.
Ça fait déjà un bout, hein ?
Oui. Conscient du pouvoir de ces compositions, les jésuites réalisèrent des crèches d'église, notamment à Prague en 1562, qui figurent parmi les plus anciennes connues. Et progressivement, les crèches entrent dans les maisons.
Est-ce qu'il y a une technique, est-ce qu'il y a des règles par rapport à ces crèches à installer dans la maison ?
Ben, à l'époque, maintenant je ne sais pas si aujourd'hui on fait pareil, mais à l'époque il était d'usage d'installer sa crèche le premier dimanche de l'Avent ou pour la Saint-Nicolas, ou pour le dernier dimanche avant Noël. Il faut lui trouver une place de choix dans la maison, puis aménager un décor qui la mette en valeur. Je crois qu'aujourd'hui, on met les crèches sous les sapins de Noël.
C'est vrai, souvent, oui.
Souvent,
Un peu de musique ?
Ouais, je veux bien. Il est né, le petit enfant.
Allez, c'est parti.
Il est né, le divin enfant. Jouez au bois, raisonnez, musette. Il est né, le divin enfant. Chanson, tout son
Bien sûr, dans la crèche ou autour de la crèche, on trouve parfois des personnages supplémentaires. Ces personnages sont appelés santons. Mais est-ce que tu peux m'en dire plus ?
Le nom des santons vient du provençal santum, qui signifie petit saint.
Ok.
La crèche restera dans nos maisons jusqu'au 2 février, date de la présentation de Jésus au temple.
Ah ouais, 2 février quand même.
Et entre-temps, les rois mages sont arrivés le 6 janvier, jour de l'épiphanie. Venus d'Orient, trois rois se mirent en route en suivant la lumière de l'étoile qui les guida jusqu'à Bethléem. Ils y retrouvèrent l'enfant Jésus qu'ils appelèrent le nouveau roi des Juifs. Quand ils le découvrirent dans l'étable, près de ses parents, Marie et Joseph, ils s'agenouillèrent devant lui en signe de respect et lui apportèrent de l'or, de la myrrhe et de l'encens.
Est-ce qu'on en sait un peu plus sur la provenance de ces gens ?
C'est aujourd'hui encore un peu obscur.
Okay.
On ne sait pas trop. Mais on les dit savants, riche mais errant, ces mystérieux personnages alimentèrent l'imaginaire qui enveloppe Noël, et encore aujourd'hui.
C'est vrai.
Une chanson populaire raconte comment les rois mages sont venus d'Afrique. Pour l'évangile, ils arrivèrent de l'Orient. Peut-être viennent-ils tout simplement du mystérieux pays d'où sont originaires les Saintes Maries de la Mer et qui porta longtemps le nom d'Égypte.
En tout cas, quand on parle de roi mage, moi j'ai une chanson qui me vient en tête.
Ah oui ? Et c'est laquelle ?
Je pense que t'as une petite idée.
C'est pas par hasard, Sheila.
Par hasard, bien sûr.
Roi mage.
En Galilée.
Oui.
Longtemps, le 6 janvier, jour de l'Épiphanie, fut plus important que le jour de Noël, figurez-vous.
Oui, c'est vrai, parce que la symbolique des cadeaux en portait témoignage. L'or de Melchior célébrait la royauté, l'encens de Balthazar, la divinité, la myrrhe de Gaspard, annonçait la souffrance rédemptrice de l'homme à venir sous les traits de l'enfant.
Et puis c'est assez intéressant de voir que dans certaines régions, aujourd'hui encore, effectivement les cadeaux sont amenés le 6 janvier. C'est notamment le cas en Italie. On l'a appris d'ailleurs en préparant cette chronique. Alors que chez nous, c'est vrai que maintenant les cadeaux, bah, ils arrivent quand même bien à Noël.
Oui, on n'attend plus les rois mages.
Exactement.
On est trop pressé d'ouvrir nos cadeaux.
Tu nous parlais de produits un peu particuliers. Qu'est-ce donc que cette myrrhe ?
C'est une résine odorante fournie par un arbre d'Arabie, le balsamier.
Ok.
Longtemps, ce jour-là, on célébra le miracle de Cana, de l'eau changée en vin. Un rituel de quête terminait jadis la période des 2 jours de fête.
Les quêteurs recevaient alors souvent en guise de présent une part de galette. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de galette des rois.
Eh oui, la galette, c'est quand même l'ambiance de Noël.
C'est vrai, hein, et accessoirement, c'est l'ambiance plutôt bon.
L'ambiance type de Noël, c'est la neige qui recouvre la campagne et les toits des maisons. Des bonhommes de neige dans les cours d'école, même qu'on n'en a plus beaucoup maintenant aujourd'hui.
Ah ça.
L'intérieur des maisons décoré de sapins parés de bougies scintillantes. C'est un bon feu dans la cheminée, quand on en a une, naturellement. Des cadeaux aux emballages multicolores sur le sapin. Des friandises sur la table. Une noix rôtie dans le four qui diffuse dans toute la maison. Un fumet parfumé d'épices et des enfants excités qui courent dans tous les sens.
Finalement, une noix ou autre chose, hein. C'est vrai que on mange plein de choses à Noël.
Ah oui,
peut-être
les chapeaux.
Un peu trop d'ailleurs. Hein.
Peut-être un peu trop, oui, ça c'est vrai.
Allez, continuons à parler de cette ambiance.
L'ambiance du réveillon Noël est spéciale et différente de la nuit du jour de l'an. C'est une fête de famille. La célébration des liens entre les générations réunies. Cette veillée est sacrée, que nous soyons croyants ou non. Pour un soir, nous oublions les rancunes, les jalousies, les disputes. C'est une nuit et une nuit de paix.
Est-ce qu'il y a des couleurs spécifiques à cette période de Noël?
Ah oui, les couleurs traditionnelles de Noël sont bien sûr le rouge, couleur de chaleur et de lumière, et le vert, couleur des feuillages, de l'espérance, mariée à l'or du soleil. Quelle que soit la couleur choisie pour décorer la maison et la table de Noël, il est important de choisir un thème pour sa décoration. Ce soir-là, on privilégie les belles matières. À l'époque, le cristal, les brocarts, les organdis, le tulle, la soie, le taffetas. Mais aujourd'hui, on opte plutôt pour des tissus rustiques et des matières naturelles. Le lin, toile blanche, épis de blé.
Mmh. Bon, on a parlé pas mal. Est-ce qu'on ferait une petite pause musicale?
Ah, moi, je veux bien. J'adore les chants de Noël.
Allez, c'est parti.
Più grande, ti voglio qui insieme a me, sotto l'albero di Natale, e l'amore che proverò, l'amore che ti darò. E Natale si respira, aria di gioia e di festa, Gesù è nato e tutto gira intorno a noi. E Natale, tanti regali aprirai, e Natale. Canta con noi, Natale, canta con noi, è nato il Signore, il Signore Gesù. Guardami negli occhi, sono un bambino, aspetto il regalo, Gesù bambino. Grande è l'amore per te, è l'amore che tu mi dai. Sì, è Natale per me, oggi è Natale per te.
Oggi è nato Gesù.
Bon, on a parlé de plein de choses, on a parlé de décoration. Est-ce qu'on parlerait pas de la table?
Ça, c'est très important.
Bah oui.
En plus, ça donne une ambiance, je ne sais pas, c'est fétive. Je vais vous parler de la coutume provençale.
Mm-hmm.
Nappe blanche pour le soir.
D'accord.
Trois nappes superposées de tailles différentes pour symboliser la Trinité.
Et la logique
nappe
religieuse,
rouge
évidemment.
Pour le matin.
Mm-hmm.
Le lendemain, il faut garder une des nappes blanches, la recouvrir d'une nappe rouge retenue par quatre nœuds.
Oh.
Nappe brodée pour le dîner de Noël. On conserve la plus grande nappe blanche qu'on recouvre d'une surnappe brodée de motifs au fil doré.
Ok, et puis ben bien sûr, tout ça s'agrémente avec un peu d'ambiance, une ambiance qui souvent résonne au chant de Noël.
Ah, l'histoire des chants de Noël, c'est toute une histoire. D'où viennent-ils surtout?
Ben, c'est
d'après
sûr.
L'évangile, les premiers des chants de Noël furent ceux des anges.
Oh,
et oui. Et oui. Très tôt, le monde s'est mis à chanter pour célébrer Noël. Et les cantiques emplissaient les églises pour clamer la bonne nouvelle. Dans les villages, les châteaux, les chaumières, les habitants, qu'ils soient riches ou pauvres, chantaient pour chasser les peurs des nuits d'hiver. Et à l'origine, les chants de Noël étaient rythmés par des rondes joyeuses évoquant la nativité, mais aussi la nature et la vie quotidienne. Aujourd'hui encore, le chant reste le plus bel instrument pour transmettre l'esprit de Noël. Les premiers chants de Noël sont des chants liturgiques ou des cantiques composés en latin. Repris par la foule au fil des siècles, il s'émaille de mots de patois.
Okay.
Le bouche à oreille transforme les paroles de génération en génération. Les auteurs sont souvent anonymes. Les premiers dont on garde la trace remontent au XVIe siècle. Aujourd'hui encore, on chante « Entre le bœuf et l'âne gris »,
ah bah bien sûr,
sans savoir qu'il s'agit d'un chant composé dans la première moitié du XVIe siècle.
Oula, ouais, c'était pas hier.
La plus belle époque des cantiques de Noël qui voit l'apparition des pastorales est le XVIIIe et XIXe siècle. Il y a les célèbres chants « Il est né le divin enfant », ensuite « Les anges dans nos campagnes »,
voilà, c'est tous des hits,
date
hein.
De cette époque. Et puis il y a l'histoire de « Douce nuit », ou « Stille Nacht », fut composée en décembre 1818. Quelques heures avant la messe de minuit, les paroles sont de Joseph Mohr, prêtre de l'église Saint-Nicolas d'Omendorf, près de Salzbourg.
D'accord.
La légende raconte que l'orgue était tombé en panne cette année-là. Des souris avaient mangé le soufflet. En toute hâte, on fit appel à l'instituteur et organiste d'un village voisin, Franz Gruber, qui inventa un air et le joua à la guitare. Au Noël suivant, le cantique fut interprété en chorale et de là, il se répandit à l'étranger.
Et il est toujours là aujourd'hui, bien sûr.
Ah, ce douce nuit, il est toujours là, absolument. Bach a composé de nombreuses cantates pour le temps de Noël.
Mm-hmm.
Tous ces chants, quelle que soit l'origine, ont le pouvoir d'inviter au recueillement et à la joie. À travers eux, un peu de mystère et d'espérance se dévoilent.
Sleep in heavenly
Alors, on a parlé de plein de choses, de décorations, de personnages, mais est-ce qu'il y a aussi des superstitions qui se rapprochent à Noël ?
Eh oui, il y a de nombreuses superstitions qui sont liées au temps de Noël. Elles expriment la peur du noir qui engendre des événements terribles. En même temps, comme pour se rassurer, on accorde à Noël des pouvoirs de chance.
Ok.
Alors, premièrement, trouver un noisetier.
Ça devrait aller.
Il y pousse un rameau d'or.
Ça, c'est plus compliqué.
Si on parvient à le couper entre les 12 coups de minuit, la richesse est assurée à tout jamais. Mais il faut faire attention, car si on n'a pas le temps de scier la branche, on rejoint...
Bon, je ne sais pas qui, mais ça ne marche pas bien. Hein.
Oui, je crois que je ne vais pas te rechercher alors.
Un enfant né le jour de Noël est voué un avenir prometteur. Il sera sauvé de la noyade et de la pendaison.
Ok.
Pourquoi la pendaison ? Ça, c'était l'époque.
Oui, hein. C'est sûr.
Il jouira toute sa vie de la chance et du bonheur. Alors, si il y en a qui sont nés le 25 et qui nous écoutent, eh ben, sachez que vous avez beaucoup de chance et beaucoup de bonheur.
Même si vous vous appelez Noël.
Eh oui. Mais il y a un dicton qui est célèbre, que tout le monde raconte encore aujourd'hui. Noël au balcon, Paco...
Disons, bien sûr.
Et voilà.
Et je crois même savoir que, selon une ancienne croyance, le jour de la semaine sur lequel tombe Noël a aussi une importance.
Alors oui. Il existe une influence sur le cours des événements. Noël va un lundi et tout se perdit.
Ok.
Quand Noël tombe un mardi, pain et vin de toutes parts.
Plutôt pas mal.
Noël le jeudi, c'est la famine.
Oula, oh. On va éviter.
Mais s'il tombe un vendredi, le blé roule sous la cendre.
D'accord.
Et si le jour de Noël se trouve être un dimanche, les ennuis de l'hiver viendront en avalanche.
J'ai noté qu'on n'a ni le mercredi, ni le samedi.
Non, eh bien je ne sais pas pourquoi. J'ai beau chercher et rechercher, j'ai jamais su.
Eh bien comme quoi, cette année, ça se passe un mercredi, on verra bien ce qui se passe.
Ça tombe à pic, parce que là, j'ai rien à dire.
Exactement. On va continuer bien sûr avec, on a parlé de la table. Alors c'est bien de savoir ce qu'on y met sur cette table.
Moi, j'ai des petites recettes que j'ai prises de l'époque, mais aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus simple. Mais je pense qu'on est quand même encore... Si on regarde un peu les menus dans les journaux, on tombe encore sur ces beaux menus. Des entrées faciles et rapides pour Noël. Le saumon fumé, hein, au pain d'épices.
Ouais, par exemple.
Des Saint-Jacques à l'ail et au persil.
Ok.
Des tapas de figues et puis de foie gras. La salade de mâche au foie gras avec un pain d'épices aux figues.
Mais attention, mâche ou rompon ?
Du rompon. Du rompon, mais on dit les deux.
Oui, on dit les deux, on c'est pour ça que je t'embête.
Mais c'est vrai qu'on n'est plus rompon qu'autre chose, c'est vrai. Et puis, il y a des entrées de Noël qui sont un peu plus économiques. Il y a le cappuccino de champignons, une terrine aux trois légumes, la salade de lentilles au saumon fumé et aux agrumes, ça doit être bon, ça.
Ouais, ouais.
Une velouté de champignons et aux éclats de marron grillé.
Ça aussi, ça a l'air bon.
Et des entrées de Noël légères. Le millefeuille d'espadon au gingembre.
Ok.
Un velouté de chou-fleur au flétan fumé. Un carpaccio de betterave courgette aux oignons.
Peut-être pour un apéritif aussi, ça peut
pour
être sympa.
Apéritif,
hein.
Voilà, c'est ça. Alors voilà, mais j'étais un peu tout raconté ce Noël. J'espère que les gens qui nous ont écoutés ont appris plein de petites choses. Et puis merci à toi, Yago. C'était formidable de passer ce moment avec toi.
Eh bien, merci à toi, ma chère Eliane. Déjà, puisqu'on arrive gentiment à l'heure fatidique, je te souhaite aussi un très bon Noël. Merci d'avoir fait l'effort aussi de préparer cette émission, parce qu'il est important de dire que c'est toi qui l'as préparée.
Ah, merci beaucoup, c'est gentil. En tout cas, moi, je souhaite un joyeux Noël à tous ceux qui nous écoutent. Et puis surtout, du bonheur. Et puis j'aimerais dire une petite chose, c'est que j'aimerais tellement que ce monde redevienne en paix et que 2025 soit une année où on ait moins de soucis, qu'on soit heureux, que le monde soit heureux, c'est tout ce qu'on demande aujourd'hui. Mais je crois, je suis quelqu'un de bienveillante et je suis très positive et puis j'espère toujours que le peu de positif qu'on peut apporter, des fois ça aide. C'est comme on dit quand un lac est complètement sale, si on met une petite goutte d'eau toute propre dedans, il va de lui-même se nettoyer.
Puisse le futur te donner raison, bien sûr, et on souhaite que tout se passe bien pour les personnes qui nous écoutent et leurs proches, et évidemment, profitez des fêtes. Si vous n'avez personne autour de vous, bien renseignez-vous, souvent il y a des événements qui sont organisés, où vous avez la possibilité aussi de vous retrouver. Par exemple, à Yverdon, il y a Noël Ensemble qui vous propose de vous ouvrir les bras, ça se passe à la Marive, ce soir n'hésitez pas à le rejoindre, et il y a d'autres événements qui se passent un peu partout. Évidemment, on va terminer cette petite période que nous avons passée ensemble en musique. As-tu une envie particulière, ma chère Eliane ?
Oh, moi, je veux rester dans Noël quand même. Mm-hmm. On va pas changer. Et si on mettait « Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver ».
Tu la veux en français ou tu la veux en anglais dans sa version originale ?
Oh, moi, j'aime les deux versions. Alors, comme on est dans une région française, faisons-la en français parce que les gens la connaissent plus, les paroles en français.
Absolument.
Comme ça, on propose à toutes les personnes qui ont suivi ton émission qui se mettent à la chanter. Ça va leur faire chaud au cœur, à l'âme. Ça porte du bonheur. Allez, vive le vent, vive l'hiver, vive Noël, vive nous.
Et vive le vent d'hiver.
Monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Et tout là-haut, le vent qui siffle dans les branches lui souffle la romance qu'il chantait petit enfant.
Hey, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver,
qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts.
Hey, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver,
boule de neige et jour de l'an, et bonne année grand-mère. Et le vieux monsieur descend vers le village. C'est l'heure où tout est sage et l'ombre danse au coin du feu. Mais dans chaque maison, il flotte un air de fête. Partout la table est prête et l'on entend la même chanson.
Hey, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver,
qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts.
Hey, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver,
boule de neige et jour de l'an, et bonne année grand-mère. Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Là-haut, le vent qui siffle dans les branches lui souffle la romance qu'il chantait petit enfant.
Hey, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver,
qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts.
Hey, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver,
boule de neige et jour de l'an, et bonne année grand-mère.
Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver,
qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts.
Hey, vive le temps, vive le temps, vive le temps.